Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC 01 TV, François Sorel, de quoi je me mail.
Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque week-end, c'est De quoi je me mail, votre rendez-vous dédié à l'actualité tech, le dimanche matin sur RMC, bien sûr, et puis en vidéo sur 01net.tv.com, sur la chaîne YouTube de 01TV, et sur vos box SFR, Orange, Free, et sur FranceSat si vous avez satellite. Je suis très heureux donc de vous retrouver. Avec tout à l'heure, un point sur l'actualité brûlante du moment, c'est la 5G, et j'aurai le plaisir de recevoir Cédric O, le secrétaire d'État chargé au numérique, qui viendra commenter, en fait, ça y est, ces enchères qui ont été validées par le gouvernement. Les opérateurs sont en train de préparer la 5G, on évoquera la 5G donc avec le secrétaire d'État, mais aussi la fibre optique, mais aussi Stop Covid et tous ces sujets liés au numérique qui nous passionnent. Je vous rappelle qu'à tout moment vous pouvez évidemment réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter, nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle. Merci d'être là et bienvenue. Et on commence bien sûr ce De quoi je me mêle par le club de la presse IT. Jean-Sébastien Zanqui est là, bien sûr. Bonjour Jean-Sébastien.
Bonjour François, bonjour à tous.
Journaliste à 01net.com et infidèle aussi de quoi je me mêle. C'est Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel.
Bonjour François.
Journaliste à l'Express. Messieurs, on le disait alors tout à l'heure, j'aurais le plaisir de recevoir Cédric O. Et on le reçoit pourquoi dans De quoi je me mêle? Parce que ça y est, les enchères concernant la 5G avancent bien. Elles ont été validées par le gouvernement, 2,8 milliards qui arrivent dans l'escarcelle donc de l'État.
Oui, ça y est, après 17 tours d'enchères, donc 2,8 milliards qui arrivent à l'État, avec, on va dire, deux gagnants finalement de ces enchères. C'est d'abord Orange qui a remporté 4 blocs, SFR qui a remporté 3 blocs de fréquence, donc dans la bande des 3,4 et 3,8 GHz. Et ensuite, Free et Bouygues qui, eux, n'ont que 2 blocs. Donc, a priori, c'est ça sera un petit peu moins, on va dire,
performant
que Orange et SFR. Donc voilà, on peut dire que pour l'instant, ça y est, les enchères ont eu lieu, les fréquences sont attribuées. Maintenant, reste aux opérateurs à lancer leurs offres,
voilà, à déployer.
Tout à fait.
Emmanuel, on peut dire, ça y est, le coup d'envoi de la 5G a sonné, c'est l'heure.
Oui, c'est bon. Bah, maintenant, effectivement, ce que disait Jean-Sébastien est juste. Hein, on n'attend plus que les offres commerciales et le lancement dans certaines villes, parce que ce ne sera pas une couverture nationale au début. Hein, donc, fin décembre, ce sera quelques villes qui vont être couvertes, notamment par Orange, puisqu'ils ont déjà annoncé qu'ils seraient présents dans 4 à 5 grandes villes au lancement. Donc, effectivement, il va falloir attendre de voir ça. Notamment, moi, j'ai tendance à penser qu'avec le prochain iPhone, Orange en vend énormément. Hein, c'est un des opérateurs qui en vend donc le plus en France de loin. Mais en Europe aussi, Orange est très bien positionné. C'est un gros client d'Apple. Donc, est-ce que ce ne sera pas le moment, justement, de pousser l'iPhone 12 avec des forfaits 5G pour capter des gros clients qui dépensent beaucoup, puisque c'est généralement des grosses factures pour les opérateurs.
Tu veux dire par là qu'on peut imaginer, et Jean-Sébastien, tu me diras ce que tu en penses, mais on peut imaginer qu'à l'occasion de la sortie de l'iPhone 5G, on puisse avoir les premiers forfaits 5G disponibles au niveau commercial?
C'est une supposition, hein. j'ai pas d'infos dans ce sens-là, mais c'est-à-dire que comme a priori les premières villes lancées, ça sera autour de décembre, et c'est à ce moment-là qu'on achète les iPhones hein, pour Noël, etc. Bon. En toute logique, je pense qu'effectivement, il y aura des offres conjointes iPhone 12 et
c'est vrai que là, il y a un alignement des planètes, hein, oui. On est d'accord. Voilà. Voilà, c'est ça. L'iPhone, et on va être sans doute le fédérateur de cette nouvelle technologie.
Exactement.
Et c'est vrai que les opérateurs vont peut-être pouvoir en profiter pour augmenter un petit peu leurs tarifs aussi.
Ah bah, ils vont essayer de récupérer les 2,8 milliards dont parle Jean-Sébastien.
C'est ça.
C'est beaucoup, 2,8 milliards pour les opérateurs. Finalement, quand on voit leur chiffre d'affaires, c'est une bonne affaire,
alors,
non?
Pour calculer exactement le coût d'une fréquence comme ça, ce qu'on prend, on prend le prix et on le divise par le nombre de personnes dans le pays qui vont potentiellement être touchées par la 5G. Enfin, touchées, je veux dire, pouvoir avoir accès à la 5G. Quand on regarde le comparatif en Allemagne et en Italie, où les enchères ont atteint un peu plus de 6,5 milliards, avec une population en Allemagne, qui est certes supérieure à la nôtre, mais en Italie qui est, je pense, à peu près un peu inférieur à la France, le prix du Hertz, en fait, du mégahertz, c'est beaucoup moins cher.
Oui, c'est un bon rapport qualité-prix,
ouais,
on va dire.
Donc, la France fait partie quand même Enfin, les opérateurs ont bien gagné sur le territoire français.
Alors, on en parlera tout à l'heure, on ne va pas trop en raconter parce que j'aurais pas mal de questions à poser à Cédric O, mais il y a aussi des engagements de couverture.
Oui.
Ce que n'ont peut-être pas nos amis allemands et italiens. C'est-à-dire que les opérateurs payent peut-être un peu moins cher ces fréquences 5G, mais ils ont des obligations assez fortes de couverture.
Exactement, c'est exactement ce que tu dis. En fait, c'est un peu les vases communicants. Oui, voilà, plus on demande d'argent, moins on pousse les opérateurs.
Moins il y a d'obligations.
Normalement, disons que c'est comme ça que ça se passe. En Corée du Sud, par exemple, les fréquences n'ont quasiment été données aux opérateurs. Par contre, ils avaient une obligation de déployer très très vite le réseau.
Ce qui a été fait avec le New Deal 4G il y a quelques années.
Exactement, qui était une révision un peu du contrat précédent pour déployer plus rapidement la 4G, notamment dans les zones moyennement denses et peu denses.
Voilà ce qu'on pouvait dire concernant la 5G. Cédric O donc sera mon invité dans quelques minutes dans De quoi je me mail. Alors on va revenir maintenant sur des choses plus terre-à-terre, plus hardware. Jean-Sébastien, les nouveautés de cette semaine, c'est Google qui les a faites avec toute une batterie de nouveaux produits.
Oui.
C'était donc durant cette, j'allais dire keynote, mais c'était même pas une keynote finalement,
c'était une espèce
de vidéo qui a été balancée en ligne.
Exactement.
Enfin, quand je dis balancée, c'est pas méchant, diffusée en ligne, qu'on a pu commenter sur 01 TV en direct.
Oui, c'était très court, ça a duré 30 minutes d'ailleurs.
30 minutes,
30 minutes, 3 ouais. produits, 30
Nous,
minutes.
Nous, on s'était à peine chauffé que ça s'est arrêté en fait.
C'est un peu ça, ouais. Ouais. Et alors effectivement, comme tu disais, il y a 3 produits différents. Donc d'abord le Pixel 5, le smartphone de Google, le Nest Audio, la nouvelle enceinte intelligente qui va remplacer le Google Home qui datait de 2016, et puis le nouveau Chromecast également qui est muni d'une télécommande. Alors pour le Pixel, c'est un smartphone on va dire plutôt milieu de gamme qui est autour des 600€ avec une puce Snapdragon 765G, donc compatible 5G justement, résistance à l'eau, Gorilla Glass 6, recharge sans fil bilatéral, batterie de 4000 mAh. Voilà, ça a l'air d'être plutôt un très bon téléphone milieu de gamme avec cette fois-ci un petit changement au niveau de la photo, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un téléobjectif, on a plutôt un grand angle qui est a priori plus utilisé par les propriétaires de smartphones, avec toujours ce côté algorithmique de traitement de photos de Google qui est vraiment sa force. Au niveau du Nest Audio, c'est vraiment un haut-parleur qui, d'après Google, est orienté vers la qualité sonore. Alors, on demande à voir, hein, parce que pour une enceinte à 100€, voilà, ils nous ont fait tout un pataquès avec Mark Ronson, qui est un producteur, qui disait que c'était génial et tout. Bon, on n'est clairement pas dans le monde de l'hi-fi, mais on verra, on va la tester, on va voir ce que ça donne.
En tout cas, s'il y a un mieux par rapport à la précédente.
Alors, par contre, oui, là, il y aura certainement un mieux, parce qu'elle est quand même mieux équipée en haut-parleur, etc. Et puis ensuite, donc, une Chromecast, produit très intéressant, qu'on connaît depuis aussi quelques années. Mais cette fois-ci, Google y ajoute une télécommande. On ne va plus seulement le commander avec son smartphone, avec vraiment une télécommande et une vraie interface. Donc, cette interface Google TV, qui permet d'avoir un peu comme Apple TV, comme l'application TV d'Apple, ça va être une sorte de hub avec toutes les applications de SVOD. Par exemple, on va pouvoir retrouver ses contenus de Disney+, de Netflix, de Canal+, de France Télé aussi, également en France, de YouTube évidemment. Ça permet d'avoir dans un seul espace toutes les séries ou les films qu'on suit, et ça va nous le proposer comme ça, de manière assez transparente. Et donc cette interface permet aussi d'installer des applications. Voilà, c'est vraiment une petite box qui sera connectée au boîtier HDMI des téléviseurs. Ça coûte 70€, c'est disponible à la mi-octobre.
Très bien. Donc voilà pour les annonces Google. On s'attendait peut-être à des améliorations même de OK Google, de Google Home. Il n'y a rien qui a été annoncé.
Non, il y a un petit gadget qui permet de... Ça s'appelle Hold For Me, qui est disponible seulement aux US. C'est en fait l'assistant Google qui attend pour vous, au lieu de vous écouter les musiques d'attente quand vous appelez un service après-vente, par exemple. L'assistant Google vous dit, ah bah c'est bon, ça y est, c'est en ligne. Vous n'avez pas obligé d'utiliser ces musiques d'attente qui sont un peu languettes parfois.
C'est dingue parce que on commentait la semaine dernière les annonces Amazon autour de Google, quasiment les mêmes annonces, hein, les haut-parleurs, les Chromecast ou les Fire TV, voilà, il y a vraiment une compétition entre les deux pour, avec évidemment ce cheval de Troie, c'est la voix, hein, c'est la reconnaissance vocale et les assistants vocaux.
Exactement, c'est la voix. Après, les objectifs ne sont pas nécessairement les mêmes pour les deux groupes. C'est-à-dire la porte d'entrée est la même, c'est-à-dire c'est effectivement la reconnaissance vocale, comme tu le disais. Mais l'objectif, je pense, est un peu différent parce que, par exemple, sur le Chromecast, l'idée, c'est de personnaliser aussi l'expérience des utilisateurs en fonction de ce que tu as pu voir. Donc, ils veulent, en fait, ce que veut Google, c'est voir ce que tu regardes et te pousser après éventuellement des choses à consommer, donc de la publicité. Amazon est sur un modèle un peu différent. Alors ils sont certes un petit peu dans le modèle de la publicité, mais c'est relativement faible aujourd'hui par rapport au commerce électronique, du moins en volume d'affaires. Donc les objectifs sont un peu différents, même si la porte d'entrée est la même. Et puis ce que disait aussi Jean-Sébastien, c'est que ce qui est un peu étonnant dans le dernier Chromecast de Google, c'est qu'il n'y a pas Stadia, le système de jeux vidéo à la demande. C'est assez étonnant. Donc on a vraiment un produit qui est très centré sur la télé, la consommation télé, et moins sur le jeu vidéo. Donc voilà, effectivement, cette annonce est assez étonnante. Et puis, il faut savoir que sur ces trois gammes de produits, téléphonie mobile, donc petit HomePod, et puis pour ce qui est du Chromecast, ils sont challengers. Hein.
Ouais.
En gros, ils ont entre 8% de part de marché sur tout ce qui est device de streaming. C'est Roku aux États-Unis qui est numéro 1 avec 30% de part de marché. Dans tout ce qui est assistant vocal, ils sont à 30% de part de marché quand Amazon est à 60-70%. Donc voilà, ils sont challengers partout, et y compris sur le smartphone. Donc c'est vraiment pour eux un hobby, voilà, si je peux dire. Un hobby qui augmente, mais un hobby.
Avec donc deux smartphones 5G, hein, on le disait, le Pixel 4a 5G et le Pixel 5 5G, des téléphones qui arriveront aussi d'ici la fin de l'année et qui pourront bénéficier peut-être des premiers forfaits 5G en France.
C'est fort probable.
Voilà. Ouais. Mais comme tu disais, le Pixel est très challenger dans le monde du smartphone. Hein, on ne voit pas beaucoup de copains ou d'amis ou de membres de la famille qui possèdent des Pixels. Hein, c'est étonnant. Alors, ce sont des téléphones qui sont plutôt bons.
C'est peu connu du grand public, effectivement.
On change de sujet et on évoque maintenant cette interopérabilité des messageries Facebook et Instagram.
Oui, effectivement, on en parle depuis, même Facebook en parle depuis plus d'un an et demi maintenant, et ça devient enfin concret depuis cette semaine. Donc Facebook a annoncé qu'il va être possible de contacter quelqu'un sur Messenger depuis Instagram et inversement. Alors, plus besoin de penser quelle application utiliser hein, du coup pour contacter ses amis. En revanche, il n'y a pas de synchronisation entre les deux applications, c'est-à-dire que les messages reçus sur l'une ne s'afficheront pas sur l'autre. Hein. C'est vraiment, on peut choisir son canal de communication, en fait, tout simplement. Donc, pour arriver à ce résultat, effectivement, il y a eu un gros travail sur côté serveur, hein, forcément, on sait que c'était le gros du boulot du côté de Facebook. Mais pour l'utilisateur aussi, ça va se voir, puisque, en fait, il faut aussi unifier les fonctions de messagerie entre les deux messageries. Donc, Instagram récupère plein de fonctionnalités de Messenger. Donc, on va pouvoir utiliser, par exemple, la fonctionnalité Watch Together, qui permet de regarder une même vidéo qui est issue, par exemple, de Facebook Watch, d'IGTV, bientôt de Reels aussi, le concurrent TikTok. Il y a un Vanish Mode qui permet d'effacer ses messages une fois qu'ils sont lus. On peut répondre à un message précis dans une conversation quand c'est un peu noyé dans le dialogue. Et voilà, pour l'instant, c'est déployé seulement dans quelques pays. Facebook n'a pas précisé lesquels. Et ça va arriver à l'ensemble des utilisateurs très bientôt. Et effectivement, on imagine que WhatsApp va suivre dans les prochains mois, puisque on sait que le projet global, c'est d'unifier les trois messageries WhatsApp, Facebook, Instagram du groupe Facebook.
Emmanuel, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi il y a cette stratégie chez Facebook? Et puis, je pense qu'il y avait aussi des problèmes techniques de chiffrement, non? Pour essayer de fusionner en fait toutes ces messageries.
Alors, sur le chiffrement, je pense que c'est plus ce que disait Jean-Sébastien, c'est plus avec WhatsApp.
C'est avec WhatsApp
qu'il y a un système de chiffrement de bout en bout.
Ouais, et par défaut, puisqu'il est activé, qui n'est pas le cas dans Messenger.
Exactement. Et donc, avant d'arriver à ce qu'on appelle le WhatsApp, c'est-à-dire la fusion des trois, WhatsApp, ça va demander, je pense, encore plus de travail que l'intégration d'Instagram. Donc, mais c'est le chemin qui est en train de prendre Mark Zuckerberg et Facebook. L'idée, c'est de dire que la messagerie instantanée devient le nouveau centre à peu près de tout. En fait, c'est la première fois que Facebook copie la stratégie chinoise des WeChat, des Alipay. L'idée, c'est de dire on va avoir une application dans laquelle il y aura tout, c'est-à-dire de divertissement, de la communication, évidemment, du commerce électronique, très probablement, et d'où les systèmes aussi de crypto-monnaie que veut pousser Facebook avec Libra. Donc ça serait un système totalement intégré, et ils sont en train, pour la première fois, c'est quelque chose d'assez original, hein, c'est que la Silicon Valley copie la Chine, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et l'idée,
c'était l'inverse pendant des dizaines d'années.
Exactement. Et donc là, on voit qu'ils veulent faire la même chose. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Parce que, effectivement, ce que disait Jean-Sébastien, c'est qu'il va falloir dire oui, hein, qu'on est OK pour faire communiquer les deux messageries. On peut dire non. Hein, mais donc, on va voir aussi si les utilisateurs...
On peut refuser, nous, en tant qu'utilisateur.
On peut refuser, si tu as un double compte, ce qui n'est pas mon cas, mais si tu en as un sur Instagram et Messenger. Et puis, dernier point, c'est qu'aux États-Unis, comme en Europe, il y a quand même des obstacles réglementaires qui commencent à arriver. Il y en a qui disent qu'on ne peut pas lier les services comme ça. Il faudrait même casser Facebook et faire en sorte qu'Instagram ait sa vie à part. Donc là, on va dans le sens inverse. Il est possible qu'à un moment donné, les régulateurs européens ou américains disent stop à cette grosse initiative de Facebook.
On se souvient quand il y avait le rachat de WhatsApp par Facebook. D'ailleurs, le patron et le cofondateur de WhatsApp, quand il était parti avec Pertz et Fracas il y a quelques temps, il avait dit on m'a demandé de dire devant la commission qu'il n'y aurait pas de fusion des comptes entre les différentes applications, mais je sais que j'ai menti. Voilà. Donc clairement, ça va
donc,
être...
Vous savez déjà la stratégie de Mark Zuckerberg. Ouais. Bien sûr, on peut la comprendre, hein, cela dit, hein, pour Facebook.
Elle a une logique, oui, c'est sûr.
Une logique. On On poursuit l'actu de la semaine dans ce De quoi je me mêle, le club de la presse IT, avec Disney+, Jean-Sébastien Zanqui, qui propose un service assez rigolo pour tous ceux qui sont fans des programmes Disney.
Tout à fait. Alors, c'est un service qu'on peut qualifier de Covid responsable. Hein. C'est le service Group Watch. Ça va donc permettre de regarder le même programme en ligne en même temps que ses amis, sans être physiquement avec eux. Donc, en gros, comment ça fonctionne, c'est les invitations peuvent être envoyées directement de la version mobile de l'application ou de la version web. On peut rassembler jusqu'à 6 participants. Une fois les invitations lancées, on peut regarder le film ou sa série, évidemment, depuis un appareil connecté ou une Smart TV.
Mais c'est-à-dire que le film commence pour tout le monde en même temps ?
Exactement, c'est-à-dire que chaque participant...
C'est une séance, en fait.
C'est ça, chaque participant peut contrôler la lecture, avancer dans le programme, et on peut réagir ensemble en envoyant des emojis, par exemple, et tout le monde les a en même temps. Donc ça permet de partager un moment virtuel, on va dire. C'est une séance de cinéma virtuelle. Pour l'instant, c'est testé au Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis. Ça devrait arriver en France là dans les prochains mois, effectivement, certainement vers la fin de l'année.
Bon, voilà, un petit peu de social dans le service de Disney, on va dire.
Oui, en fait, il court après Amazon, hein, parce que Amazon Prime Video l'intègre avec Twitch. Donc si tu as un compte Twitch et un compte Amazon Video depuis le mois de septembre en France, par exemple, tu peux faire partir regarder une série ou un film.
Donc c'est pas que les programmes de Twitch, c'est aussi tous les programmes d'Amazon Prime Video.
Tous les programmes d'Amazon Prime Video que tu peux regarder avec des amis et commenter avec le fil chat. Dans Twitch. Donc, on voit aussi l'intégration. On parlait d'intégration WhatsApp tout à l'heure. L'intégration Twitch-Amazon, elle devient aussi de plus en plus prégnante. Hein.
Très bien. Une mauvaise nouvelle pour Uber maintenant, Jean-Sébastien Zanqui. On se rend compte que, cette arlésienne de la voiture connectée et autonome a du plomb dans l'aile et Uber en paie le prix.
Ouais, c'est peu de le dire. C'est un email qui a été envoyé par le responsable de la division véhicules autonomes au PDG d'Uber qui a été intercepté ou obtenu par The Information, le site américain. Il y a une phrase qui est quand même assez révélatrice. Ce responsable dit qu'Uber a tout simplement échoué à progresser et à réaliser des progrès significatifs depuis si longtemps qu'il faut en parler avant qu'une catastrophe n'arrive. Ça pose un peu l'ambiance. D'après lui, en fait, la voiture autonome d'Uber ne conduit vraiment pas bien du tout. Elle est même en difficulté sur certaines manœuvres qui sont assez simples. Et en bref, elle est inutilisable en l'état en conduite autonome.
Avec cet accident mortel, on s'en souvient, l'année dernière, je crois.
C'était en 2018, effectivement. Et c'est certainement un des événements qui provoque cet arrêt, en fait, parce que The Information raconte que, justement, il y a un peu la guéguerre au sein des équipes, c'est-à-dire que d'un côté, il y a des chercheurs en intelligence artificielle, etc., qui, eux, veulent aller de l'avant et essayer des choses, etc. Et de l'autre, il y a des ingénieurs qui viennent du monde de l'aéronautique et qui, eux, misent sur la sécurité avant tout. Et donc, il y a un peu...
En fait, c'est deux philosophies.
Exactement. Et pour l'instant, ces ingénieurs en aéronautique ont pris la main sur le développement après cet accident en 2018, donc qui avait coûté la vie à une personne qui s'était faite renverser par un véhicule autonome. Et à titre informatif, d'exemple, en gros, en 2019, Uber visait seulement un incident tous les 16 km. C'est-à-dire un incident, c'est un freinage un peu brusque.
Oui, c'est pas forcément un accident grave.
Non, mais... c'est un démarrage un peu vif, c'est des choses comme ça. En gros, en 2019, ils ont eu un incident de cette sorte tous les 800 mètres. Donc c'est dire le travail qui n'a pas été effectué. Et pendant ce temps, Tesla met à jour son autopilote régulièrement sur sa voiture de série. Voilà. On voit le monde qui les sépare.
En fait, on a l'impression que Tesla est presque prêt pour la voiture autonome, qu'ils attendent un allègement de la législation. Mais
effectivement. Alors après, il faut dire, il y a eu quand même pas mal de sociétés qui ont abandonné leur projet de voiture autonome. Il y a eu Apple. Souviens-toi, les équipes qui avaient été constituées ont toutes été licenciées. Puis il y a eu Dyson à un moment donné qui envisageait aussi de lancer sa voiture autonome, qui a dit finalement.
Jeter l'éponge. Hein.
Ouais, exactement. Donc Uber, ce serait le troisième ou quatrième à se retirer ou à. Alors ils n'ont pas dit qu'ils se retiraient, mais
non.
En tout cas à connaître des difficultés sur ce mode de véhicule là autonome ou semi-autonome. Donc effectivement, il reste aujourd'hui, comme tu le disais, Tesla, puis toujours Google qui est très en pointe sur le sujet.
Compliqué, la voiture autonome. Hein. C'était vraiment le rêve il y a deux ans. Hein. Il y a deux ans, on imaginait que dans cinq ans, on allait tous rouler en voiture autonome. Et paf, d'un coup, la dure réalité. On se rend compte que c'est pas prêt, que ça marche pas.
Ouais, après, il y a aussi les constructeurs automobiles qui travaillent dessus. Hein. Ils avancent aussi de leur côté.
Oui, c'est vrai. Mais on a l'impression que c'est moins d'actualité, en tout cas.
Ça va prendre plus de temps, c'est sûr.
Voilà. Oui. Ouais. Et alors, peut-être que justement, on revient à la 5G. Hein. Le fait que la 5G se généralise, peut-être aussi accélérera-t-elle l'arrivée de la voiture autonome. Un mot aussi sur votre smartphone, si vous avez un iPhone et que vous avez installé la dernière version d'iOS, iOS 14. Certains d'entre vous ont peut-être un peu ragé en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ?»
Oui.
J'ai l'impression d'avoir moins de batterie et moins d'autonomie.
Oui, si vous fréquentez un peu les réseaux sociaux, vous avez pu voir quelques tweets ou statuts Facebook de gens qui râlaient en disant « oh, depuis iOS 14, voilà, j'ai moins d'autonomie, ça va pas du tout ». Alors du coup, on a voulu en avoir le carnet, au labo de 01.
Vous avez enquêté,
exactement, donc mon collègue Pierre Fontaine et Lionel Mourayon au labo ont mené quelques tests. Eh bien, il s'avère que c'est pas du tout le cas. Au contraire, en fait, on a remarqué qu'avec un iPhone 11 Pro, donc, sous iOS 14, on gagne 23 minutes d'autonomie sur un run, on va dire, sur, entre
d'accord,
deux charges, par rapport avec iOS 14, par rapport à iOS 13. En gros, on a une moyenne d'autonomie moyenne de 17h39 au lieu de 17h16 avec iOS 13.
Donc, c'est mieux qu'avant.
C'est mieux qu'avant. Alors, en revanche, pourquoi on a cette impression souvent, quand on fait une mise à jour, que l'autonomie est un petit peu faiblarde?
Et moi, j'avoue, au début, je l'ai eu aussi.
Voilà.
Hein.
Et en fait, simplement, parce que quand on fait une mise à jour, il y a certaines opérations système qui s'effectuent en tâche de fond pendant les premiers jours en fait, de l'installation. Donc, en fait, ça peut être des réindexations de fichiers, d'extensions, ou tout simplement aussi un recalibrage de la batterie. Donc, ça, c'est des processus qui existent pendant quelques heures ou quelques jours. Et donc, on peut ressentir le fait qui est réel au début. Mais ensuite, une fois que toutes ces opérations en tâche de fond ont été effectuées, on voit qu'on retrouve une autonomie tout à fait correcte, voire même meilleure. Donc, vous pouvez y aller sans crainte, faire votre mise à jour iOS 14. Vérifiez quand même que la batterie de votre iPhone est encore en bon état. Dans les réglages, on peut le voir, parce que sur un iPhone un peu vieillissant, effectivement, ça peut impacter forcément les performances.
Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a certains journalistes qui se sont amusés en fait, à installer iOS 14 sur un vieil iPhone 6S Plus, après avoir changé la batterie. Et on parle souvent d'obsolescence programmée, que Apple programme justement le fait qu'au bout d'un certain temps, vous devez changer d'iPhone. Mais il paraît que sur un iPhone 6S Plus, iOS 14, un iPhone 6S Plus, c'est un téléphone qui a 5 ans. Eh bien, marche, tourne comme une horloge et on se retrouve avec un téléphone qui est totalement opérationnel.
Ouais, c'est notre collègue Adrien Branco qui a fait le test chez nous. Et
exactement.
Effectivement, il a passé un peu plus d'une semaine avec un téléphone qui a 5 ans, donc un 6S. Et j'ai regardé avec lui, c'est hyper réactif. Il y a les jeux 3D qui tournent dessus, etc. C'est vraiment impressionnant. C'est vrai que, comme tu dis, quand on parle d'obsolescence programmée, on voit qu'un téléphone qui a 5 ans peut faire tourner le dernier OS.
C'est intéressant d'en parler parce qu'on dit souvent que les constructeurs de smartphones sont là pour justement accélérer le renouvellement. Bah là, regardez, 5 ans. Alors, il faut changer la batterie. Hein. Alors,
oui, il vaut mieux, effectivement.
C'est vrai que
la batterie est faible, ça impacte les performances, on le sait maintenant dans iOS.
On termine justement, on parlait de 5G, on va y revenir quelques secondes, Jean-Sébastien, puisque je vous rappelle que dans quelques instants, je recevrai Cédric O. On voit que, maintenant que les enchères sont faites, les opérateurs commencent peut-être à se positionner. Et Orange serait sur les starting blocks pour lancer des offres à 5G.
Oui, tout à fait, c'est une information qui a obtenu e-génération cette semaine. En gros, Orange aurait déjà prévu, ça y est, on imagine que c'est le cas chez tous les opérateurs,
Mais
en tout cas, les infos sont sorties. En gros, il proposerait 4 forfaits 5G pour le lancement de cette techno. Alors, bien entendu, il y aurait les appels illimités, les SMS, MMS illimités. Au niveau des datas, ça serait 70, 100, 150 gigas et même un haut de gamme qui serait illimité. Et là, on va parler de prix, effectivement, parce que...
De l'illimité, ça veut dire que c'est quand même assez nouveau de la part d'un opérateur comme Orange. Je crois que c'est la première fois qu'Orange propose un forfait illimité en data.
Oui, c'est possible, effectivement.
Je pense. Et donc, c'est quand même une première.
Oui, tout à fait. Et en revanche, les prix, on est habitué à des prix assez bas. Là, ça commencerait à 30 euros et ça arriverait jusqu'à 80 euros avec certains services offerts, par exemple OCS qui sera offert pendant 6 mois ou l'option aussi multisim gratuite sur demande pour les forfaits haut de gamme. Une fois que maintenant que les enchères sont terminées, e-génération parlait d'un lancement dès le 8 octobre de ces forfaits-là. Ça me semble un peu tôt, à voir. Je sais pas.
Cela dit, il y a Bouygues qui, avant l'été, a commencé à dégainer des forfaits compatibles 5G. Alors, je sais pas trop ce que ça voulait dire. Hein.
Ah bon,
je sais pas si vous avez
vu ça.
C'était une offre en fait de forfaits 4G, et il y avait écrit compatible 5G. Bon, on les payait plus cher, hein, parce que comme ça, on était content d'être compatible 5G, mais on captait pas de 5G, hein, puisque forcément, c'était pas encore lancé. On voit que ça va, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à la fin de l'année va être costaud. Ouais,
ça va être intéressant, puis de voir les stratégies effectivement qui s'affrontent. Alors Orange a toujours eu, c'est eux qui ont le plus de fréquences, le plus de blocs, la meilleure couverture réseau, donc il y a toujours une prime Orange à l'opérateur historique. Après, il est possible que Free renouvelle son coup de Trafalgar sur la 4G, c'est-à-dire la 4G au même prix que la 5G, c'est-à-dire sans surcoût, assez rapidement, et pour casser les pattes un peu aux concurrents en disant, bah, regardez, les autres augmentent les prix, bah, pas Free. Donc, ils ont souvent fait ça, ils peuvent reprendre le lead cette fois. Moi, bon, on leur a posé la question. Hein. Ils ont dit ni oui, ni non.
Oui, enfin, cela dit, Free est beaucoup moins trublion qu'avant. Hein. Ils sont un petit peu rentrés dans les rangs, quand même.
Mais
hein.
Ils ont toujours
moins de coups d'éclat, de coups comme ça, de pirates, comme ils avaient pu le faire avant. On se rend compte que Xavier Niel commence à s'assagir, vraiment.
Mmh. Il y a ça, et puis il doit financer quand même l'Italie, un peu l'Irlande, maintenant la Pologne. Donc, voilà, il a quand même d'autres fers au feu. Hein. Donc, c'est plus compliqué de casser les prix en France, qui est censé financer l'extension internationale.
Peut-être qu'on aura cette bonne surprise.
Peut-être.
Enfin, bonne surprise pour nous consommateurs, pour les opérateurs, je pense que ça sera peut-être un peu moins agréable. Merci à tous les deux, merci Jean-Sébastien Zanchi, journaliste à 01net.com et évidemment à Emmanuel Paquette de l'Express, qu'on peut retrouver, qu'on peut lire dans l'Express, bien sûr. Vous restez avec nous, la suite de ce De quoi je me mêle, on va revenir bien évidemment sur cette attribution des fréquences 5G avec le secrétaire d'État au numérique qui est mon invité, Cédric O. A tout de suite.
De quoi je me mêle sur RMC et 01TV. RMC, 01TV, François Sorel, De quoi je me mêle.
C'est donc le retour de quoi je me mêle sur RMC le dimanche matin, mais aussi sur 01TV, sur la chaîne YouTube, sur 01nettv.com et sur les box SFR, Orange et Free, et puis sur satellite aussi, sur Franceat. Merci de nous suivre en tout cas. Ça a coûté des milliards, les opérateurs sont relativement satisfaits et surtout, c'est le coup d'envoi officiel de la 5G. Tout ça a été décidé il y a quelques heures à peine. Ça y est, les enchères ont été validées. 2,8 milliards dans l'escarcelle de l'État. On va vous expliquer en fait ce qui se cache derrière cette 5G, derrière ces enchères. On va évoquer un peu tous les sujets liés au numérique maintenant avec mon invité. Je suis très heureux d'accueillir Cédric O. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire d'État chargé au numérique. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a évidemment pas mal de sujets. En plus, votre venue tombe pile poil avec cette attribution des fréquences 5G. Pour tous ceux qui n'y comprendraient rien, Cédric, qu'est-ce qui s'est passé donc vendredi dernier ? 2,8 milliards donc, qui vont à l'État et qui sonnent surtout, je le disais, le coup d'envoi de la 5G.
Alors, pas totalement, pour être un tout petit peu précis. Donc, en fait, la 5G, donc cette nouvelle technologie, qui grosso modo, pour les gens, si on l'explique, revient à avoir la fibre sur son téléphone portable, avec la qualité de stabilité et de débit. Pour déployer cette 5G, on a l'État et l'ARCEP, donc qui est l'autorité qui régule les télécoms, ont mis aux enchères des nouvelles bandes de fréquences, c'est-à-dire de nouvelles autoroutes de fréquences, pour les opérateurs qui ont donc fait des enchères misées pour essayer de récupérer la plus grande partie possible de l'autoroute.
C'est des blocs.
Des blocs de fréquences, exactement. Et donc, les enchères ont été lancées le 29 septembre dernier, donc en début de semaine. Il a fallu quelques jours pour attribuer tous les blocs. Et donc, nous avons annoncé hier que les blocs avaient été attribués pour un total de 2,786 milliards d'euros, ce qui est un bon chiffre, on y reviendra peut-être. Il reste encore une toute petite partie qu'on a moins en tête. Enfin, 90% du chemin est fait. Maintenant, on a ce qu'on appelle les enchères de positionnement. Et donc, en fait, pour entrer un peu dans le détail, donc les bandes de fréquence, c'est-à-dire les voies sur lesquelles la 5G va se déployer notamment, sont entre 3,4 et 3,8 GHz. Si vous êtes à 3,5 ou 3,6, c'est un petit peu mieux que si vous êtes à 3,4 ou 3,8. Et donc, là, ils vont se positionner pour essayer d'avoir la meilleure fréquence. Mais on considère que le plus gros du chemin est passé parce que ça a rapporté 2,8 milliards d'euros, pour le dire assez rapidement. Maintenant, on parle... Les estimations, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Donc, le gros du chemin est passé. Mais juste pour revenir sur un peu les prochaines étapes, puisque c'est un peu ce que vous évoquiez, il va falloir encore quelques semaines pour finaliser l'attribution formelle et juridique. Dans la vie des Français, l'estimation, c'est que les nouveaux forfaits, en tout cas les offres commerciales, vont arriver d'ici la fin de l'année, probablement avant Noël. Et donc, on verra des offres 5G avant Noël. Mais c'est, voilà, là, on a passé une étape importante dans, dans la
transition. On est quasi au coup d'envoi, en fait. Hein, voilà,
voilà on approche en tout cas du coup d'envoi.
Voilà. Alors, 4 blocs pour Orange, qui est l'opérateur numéro 1, 3 blocs pour SFR, 2 pour Bouygues et 2 pour Free. Est-ce que c'est assez équilibré, à votre avis ?
Je pense d'ailleurs que c'est bien que tout le monde en ait. Ensuite, en tant que, enfin, je pense que ni l'ARCEP ni l'État n'ont à dire qui doit avoir quoi. Je pense que là, pour le coup, il y a une question d'enchère. Il était important que tout le monde se positionne. Et on va dire qu'on a eu une approche un peu spécifique sur cet appel d'offres, enfin, cette phase d'enchère. Au contraire de certains autres pays où, en fait, qui ont laissé les opérateurs surinvestir, l'Allemagne par exemple a des montants plus élevés.
Je crois que c'est 6 ou 7 milliards.
6 milliards d'euros à 6 milliards 5.
Même l'Italie aussi. Hein,
l'Italie aussi. Nous, on a fait un choix qui est dès l'origine de dire, évidemment, le prix est important. Par contre, on vous met des obligations de déploiement. Donc d'abord, il faut que vous déployiez vite. C'est 3000 antennes en 2022, 10 000 en 2025. Et par ailleurs, on a introduit quelque chose que n'ont pas fait les autres. C'est qu'on a dit un quart des antennes doit être dans des zones peu denses.
D'accord.
Et donc, on sait que c'est moins rentable les antennes dans les zones peu denses, donc c'est pour ça que le prix est moins élevé. Par contre, c'est important pour nous de ne pas réitérer les problèmes qu'on avait eus sur la 4G, où en fait, on a toujours d'ailleurs, même si on couvre vite, on pourra y revenir, un problème de zone blanche. On veut faire en sorte que dès le début, on prenne en compte la ruralité, le périurbain, pour une raison simple, c'est que même dans ces endroits-là, c'est important d'avoir la 5G, à la fois pour les consommateurs et pour les gens, le même niveau de service que dans les villes, mais aussi parce que pour certaines applications, comme la télémédecine, le télétravail, l'agriculture, c'est aussi important. Et donc, comme on considère que c'est une technologie importante pour l'avenir de l'économie française, on y reviendra, j'imagine, on voulait faire en sorte qu'il n'y ait pas un déséquilibre ville-campagne, comme on l'a connu trop souvent sur la 4G.
Vous parliez d'obligations pour les opérateurs, c'est un peu comme le New Deal 4G qui avait eu lieu il y a quelques années, hein, à peu près, où vous aviez réattribué des fréquences gratuitement, mais avec des obligations très fortes de déploiement. Est-ce que les opérateurs jouent le jeu en général, ou est-ce qu'il faut de temps en temps les rappeler à l'ordre ?
Alors, on maintient une pression forte, mais je pense qu'il faut dire qu'ils jouent le jeu en règle générale. Juste pour vous donner une idée de l'accélération de ce que vous évoquez, qui s'appelle le New Deal, qui est en fait un accord entre l'ARCEP, le gouvernement et les opérateurs. Le précédent plan de couverture des zones blanches avant 2018, donc des précédentes majorités, sur 15 ans, ce sont 600 pylônes qui ont été allumés en zone blanche. Avec le New Deal, dans les 2 ans qui viennent, on va en allumer 2000. Donc on passe d'une logique de 600 en 15 ans à 2000 en 2 ans, et au total ce sera 12 000.
Des pylônes où il n'y a aujourd'hui...
Dans les zones blanches.
Pas de réseau, en fait.
Exactement.
Pas de réseau, ou pas de data, ou pas d'internet.
Exactement. On ne parle là, sur les 12 000 pylônes, que des zones blanches. On ne parle pas des
12 000 ou 2 000, pardon.
2 000 en 2 ans, 12 000 en 8 ans.
D'accord.
Donc c'est une accélération comme on n'en a jamais connue. Chaque mois s'inaugurent 80 nouveaux pylônes dans les zones blanches. Donc il y a une accélération qui est sans commune mesure avec ce qu'on avait connu. Évidemment, pour les gens, c'est toujours trop lent, c'est toujours trop long. Mais je pense que le problème des zones blanches va vraiment très significativement se réduire dans les 2 ans et dans les 5 ans à venir. Ça prend quand même un peu de temps d'installer un pylône. Parfois, tout le monde n'en veut pas, il faut aussi le dire. On a quelques difficultés pour les installer, sur la 4G, je parle.
Sur la 5G, ça risque de...
Mais il y a un plan de déploiement qui est très fort, et qui ne sera pas ralenti par la 5G. J'insiste sur ce point parce que je lis de temps en temps « Oui, mais vous déployez la 5G, nous, on n'a pas encore la 4G ». Ce n'était pas du tout antinomique pour une raison assez simple et très technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est qu'aujourd'hui, la 5G, elle repose sur des pylônes 4G. Donc, pour déployer la 5G, on a besoin d'avoir de la 4G. Et donc, il n'y a pas de concurrence entre les deux. On va maintenir ce rythme.
Qui peut le moins, en fait, ou l'inverse.
Exactement. En fait, on met des antennes 5G sur des pylônes 4G. Donc, on va continuer à déployer très fortement les pylônes 4G et on va mettre des antennes 5G graduellement. Et pour revenir aux obligations qu'on évoquait tout à l'heure, on voit que la 5G est au cœur de nouveaux services, mais aussi d'une compétition internationale, d'une concurrence internationale. Il y a déjà 100 millions de Chinois qui ont des forfaits 5G.
Oui, la Corée est couverte à 100%, je crois.
La Corée est couverte quasiment à 100%. Il y a déjà 7 millions de Coréens qui ont des forfaits 5G. Et donc, nous, on avait un intérêt, certes, à gagner de l'argent. On a un bon prix, un peu supérieur à ce qu'on escomptait, mais aussi à faire en sorte que très vite, il y ait des pylônes 5G, encore une fois, en ville et dans la campagne.
Quelles sont les obligations que vous imposez aux opérateurs concernant le déploiement de la 5G?
Alors, c'est une obligation
de nombre. C'est assez ambitieux.
Oui, c'est ambitieux. Juste pour donner une idée, donc c'est 3000 pylônes d'ici 2022.
Et il y en a combien déjà installés? Parce qu'on sait que les opérateurs ont déjà déployé leur réseau.
Alors, il y a deux choses. Sur les pylônes 5G, je crois que c'est à peu près 500 aujourd'hui stations 5G qui sont disponibles pour les expérimentations.
Voilà. Donc, dès que ça sera officiel, ces expérimentations deviendront des pylônes effectifs.
Tout à fait. Ils peuvent allumer dès que c'est officiel. Formellement, ils peuvent d'ailleurs, c'est un peu technique, mais ils pourraient utiliser, et d'ailleurs ils le feront probablement un peu, des pylônes qu'ils ont déjà en 4G pour les passer en 5G.
On en parlera tout à l'heure parce que c'est un sujet aussi un peu tendu, ça.
Exactement. Mais en tout cas, donc on leur met des obligations de déploiement. C'est 3000 pylônes d'ici 2022 et c'est 10 000 pylônes à horizon 2025. Et dans ces 10 000 pylônes, il devrait y en avoir un quart, donc 2500, qui sont en zone peu dense.
D'accord. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente en termes de couverture de la population? Parce que dit des pylônes comme ça, on ne sait pas trop, en fait. On a une idée du pourcentage de la population que ça représente?
Je peux donner une idée pour... Aujourd'hui, un opérateur normal, il a entre 15 et 20 000 pylônes.
D'accord.
Donc quand
pour
on dit
99% de la population couverte.
Voilà, à peu près.
Ça.
Exactement. Je crois que c'est 97% de la population. Alors, c'est toujours les derniers pourcents qui sont les plus difficiles à couvrir.
Bien sûr.
Mais donc, d'ici 2025, on devrait avoir une partie sensible de la... Enfin, une très grosse partie de la population française.
Ça veut dire qu'on pourrait avoir plus de... Alors, ça sera pas à beaucoup plus que 50%, parce qu'évidemment, ce sont les villes denses qui vont être couvertes. Donc forcément, ça va faire augmenter le taux de population couverte. Mais on peut imaginer que d'ici 2025, on est quoi, 60% de la population couverte?
Alors,
en 5G?
Encore une fois, il y a un quart des antennes qui sont pas en zone dense. Hein.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Donc on a mis une obligation de dire, on sait que c'est moins rentable, d'ailleurs c'est pour ça que le prix n'est pas si élevé, mais il y a un quart des antennes que vous allez mettre dans la ruralité, dans le périurbain.
Donc il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas de fibre, n'ont pas d'ADSL, n'ont pas de 4G, ils risquent d'ici 2025 se retrouver avec de la 5G?
Alors d'ici 2025, ils auront de la fibre, puisque c'est, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un engagement qu'on a pris. Ce qui est intéressant, nous on n'a pas fait ce choix-là, mais aux États-Unis, il y a certains endroits où ils ne déploient plus de la fibre, ils déploient de la 5G, parce que les fonctionnalités de la 5G, comme c'est très proche de la fibre en termes de stabilité et de débit, ils estiment que pour certains endroits, ils préfèrent déployer de la 5G.
Ça coûte moins cher, accessoirement, non ?
C'est discutable, mais en tout cas, nous, ce n'est pas le choix qu'on a fait, puisqu'on a par ailleurs choisi de maintenir le déploiement de la 4G, le rythme très fort de déploiement de la 4G, mais aussi de couvrir l'ensemble du territoire à 100% en fibre, parce que ça nous semble important.
Alors, 4G, 5G, évidemment, c'est le progrès. On est obligé de passer par là. Malgré tout, il y a, on va dire, des réfractaires à ces technologies. On le voit avec des émetteurs qui flambent, du vandalisme qui est fait parfois. Que diriez-vous à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, qui sont réticents envers cette 5G, parfois même la 4G? Pourquoi aujourd'hui, on est dans l'obligation de développer les réseaux de demain?
Alors, je vais commencer par une contrainte qui n'est pas la partie la plus sexy, mais qui est très concrète. D'ici 2 ans, il n'y a plus de fréquences disponibles sur les réseaux 4G, donc dans les grandes villes. Donc d'ici 2 ans, dans les grandes villes, les réseaux vont saturer. Donc complexité pour la voix, complexité pour les données. Et donc là, on a 3 choix. C'est soit on laisse saturer les réseaux. Je pense que personne n'a envie de laisser saturer. Les réseaux, ils vont saturer, pas parce qu'on va mettre la 5G. Les réseaux, ils vont saturer parce que les gens consomment de plus en plus de données et qu'ils ont ce réflexe-là et que ça augmente très fortement. Donc, soit on laisse saturer, soit on met des antennes 4G, soit on met des antennes 5G. Les antennes 5G, pour faire le travail d'une antenne 5G, il faut aller entre 2 et 20 antennes 4G. Et donc, la décision très concrète, à court terme, qui va être celle qui fonde la décision du
gouvernement. Le fait de désengorger la 4G, c'est la 5G.
Mais on peut le faire en 4G, c'est-à-dire on peut rajouter une antenne 4G, sauf qu'en fait, on va consommer 20 fois plus d'électricité et d'énergie. Et donc, à très court terme, il y a ce sujet-là. Ça, c'est le premier élément. Et d'ailleurs, c'est très basiquement, à très court terme, c'est la question de ce qu'on vient d'attribuer, c'est ça. Oui, il y a de nouveaux usages, oui, c'est important pour l'industrie, oui, c'est important pour l'agriculture, mais si on est un peu très concret, à horizon de 2 ans, c'est aussi indispensable parce que sinon, plus de données et tout le monde va avoir un problème pour utiliser son téléphone portable dans les grandes villes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, et on reviendra après, si vous voulez, sur les questions sanitaires, environnementales qui se posent. Le deuxième élément, c'est que, encore une fois, la 5G, c'est la 4G en mobilité. C'est la fibre en mobilité. Et donc, on a beaucoup plus de débit, et on a ce qu'on appelle un temps de latence, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous appuyez sur un bouton, le temps que ça réagisse, qui est extrêmement réduit.
Le ping, en quelque sorte.
Voilà, exactement. Voilà.
Qui se mesure ouvre, en millisecondes.
Exactement. Ce qui ouvre, pour les personnes et pour les individus, des applications en termes de loisirs qui sont très intéressantes, mais ce n'est pas le plus important, même si il ne faut pas le balayer d'un revers de main, c'est que dans l'industrie, dans l'agriculture, dans la télémédecine, dans les transports, dans l'énergie, ça ouvre de nouvelles capacités qui sont extraordinaires. Des capacités qui rendent les entreprises plus compétitives, c'est une chose importante. C'est pour ça d'ailleurs que les Chinois et les Américains l'ont mis au cœur de leur bataille commerciale.
Oui.
C'est qu'ils estiment que s'ils veulent...
C'est vraiment un outil de compétitivité.
Exactement, garder leur industrie. Et s'ils veulent éviter que leurs usines partent dans la grande concurrence internationale, ils ont besoin de la 5G. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun industriel qui vient dans un pays où il n'y a pas de 5G. Il n'ouvre, soit ils enlèvent ses usines, soit ils ne mettent pas ses usines. Je dis ça parce qu'on a un petit sujet sur les usines en ce moment en France. Et donc, c'est important pour cela, mais c'est important pour l'agriculture de demain. C'est-à-dire, l'agriculture de demain, plus économe en énergie, plus économe en eau, qui a besoin de connecter son drone avec le tracteur, avec des sondes dans ses champs, avec son système de pilotage intégré, qui a besoin de le connecter avec le satellite pour échanger des images, etc., on ne sait pas le faire sur la 5G.
Encore faut-il qu'il y ait de la couverture 5G dans ces zones rurales.
C'est pour ça qu'on a mis des obligations de couverture des zones rurales. Les réseaux intelligents de demain, c'est-à-dire les réseaux qui vont nous permettre de connecter les éoliennes, les petites cellules de production électrique, les voitures électriques, avec nos chauffages et nos chaudières, on ne sait pas le faire sans la 5G. La voiture de demain, on ne sait pas le faire sans la 5G. On voit les expérimentations, par exemple, d'Orange avec des constructeurs et un consortium automobile pour que les voitures détectent les piétons pour éviter les accidents. Ça, on a besoin d'un temps de latence très court. On ne sait pas le faire en 4G. Parce que entre le moment où le système voit le piéton et le moment où la voiture doit réagir, vous avez une question de millisecondes. Si vous êtes dans la temporalité d'aujourd'hui, le piéton est embouti.
Quelques millisecondes, c'est quelques dizaines de mètres supplémentaires pour que la voiture réagisse.
Et donc, en fait, la 5G, c'est des nouveaux débits, c'est plus simple pour faire un certain nombre de choses. Ça consomme moins que la 4G à bande passante équivalente. Mais surtout, là, on voit qu'on est dans une crise. Tout le monde se fait un peu concurrence, il faut le dire, pour attirer pour les usines, pour qu'elles restent ici, pour développer de nouveaux services, pour faire en sorte que l'agriculture française soit aussi performante que l'agriculture
allemande. En gros, pour séduire de nouveaux investisseurs, il faut de la 5G.
Oui, tout simplement pour que nos entreprises aujourd'hui soient capables d'être aussi compétitives que les autres. Comme l'a dit Bruno Le Maire, mais quel cadeau fait aux Américains, aux Chinois et à nos concurrents internationaux si jamais on ne met pas la 5G. C'est-à-dire, on se bat aujourd'hui pour que l'usine Bridgestone ne ferme pas et que l'entreprise réinvestisse et imagine une usine du futur. Mais si on ne met pas la 5G, mais quel intérêt à le faire? Je veux dire, autant aller mettre son usine en Allemagne.
À votre avis, 100% de la population en 5G ou 99% de la population, c'est à quel horizon? Dans 10 ans ou avant?
Non, avant, je pense que de facto, ça va... Comme toutes les
il
nouvelles...
a fallu quoi, 7 ans, 8 ans pour que la 4G soit...
7 ou 8 ans pour la 4G, je pense que ça sera la même chose pour la 5G.
C'est plus compliqué pour un opérateur de développer de la 5G par rapport à la 4G. Vous disiez tout à l'heure, il faut avoir les mêmes pylônes. Donc, en fait, finalement, c'est simplement du changer le matériel qui a sous les pylônes.
Oui, exactement. On a
Ça peut aller peut-être même plus vite. On peut espérer que ça aille plus vite que le déploiement de la 4G.
On pourrait espérer que ça aille plus vite parce que la difficulté avec la 4G pour gagner les derniers pourcents, c'est effectivement le pylône lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tirer le câble, il faut apporter la fibre jusqu'au pylône, monter le pylône, avoir l'autorisation, éviter que ce soit un endroit qui soit trop visible, que ce soit trop proche d'habitation,
etc. Et tout ça, cette structure, on l'a déjà quasi.
Et là, avec le New Deal et avec ce qu'on déploie, on n'aura plus qu'à mettre les antennes dessus. Donc ça risque d'aller plus vite. C'est d'ailleurs aussi une raison de la différence d'investissement entre la France et l'Allemagne. C'est que l'Allemagne, comme ils ont moins de pylônes, ils doivent aussi tirer les pylônes.
Ils sont obligés d'investir. Juste un mot sur la fibre optique, après on reviendra sur la vraie 5G, la fausse 5G, parce que c'est un débat que les opérateurs emploient en ce moment. 2025, vous l'avez dit et vous l'avez encore confirmé il n'y a pas si longtemps, en septembre je crois bien, pour vous en 2025, tous les Français auront la fibre?
Pour nous en 2025, la fibre, tous les Français auront la fibre à 99,99%. Je ne peux pas vous garantir que la dernière bergerie sur un éperon rocheux, elle aura la fibre. En fait, ce qu'on veut faire, pour utiliser une image très claire, c'est considérer qu'il y a un service universel de la fibre comme pour le téléphone, comme pour l'eau, comme pour l'électricité. Donc, tout le monde n'est pas relié à l'eau et l'électricité en France. Vous trouverez toujours une bergerie d'accord. qui ne l'a pas. Mais grosso modo, tout le monde l'a, si on est basique. Et d'ailleurs, on veut même aller inscrire plus loin, ça parce dans que le cadre d'un service universel.
Finalement, on pourrait même imaginer que la petite ferme dans l'Arzac perdue au milieu de nulle part, si elle n'a pas la fibre, elle pourra avoir ou de la 4G ou de la 5G.
Mais de toute façon, ça, c'est avant. C'est-à-dire, d'ici 2022, on s'est engagé à ce que tout le monde ait du très bon débit. Que ce soit par fibre, que ce soit...
Du très haut débit ou le bon haut débit
du très bon débit, c'est-à-dire 30 mégabits par seconde, d'accord. pour être très clair. Que ce soit par fibre, que ce soit par 4G fixe, ou que ce soit par satellite.
Donc ça, 2022.
On a lancé un nouveau satellite qui permet de faire du très haut débit partout en France. Donc même la dernière bergerie sur un éperon rocheux, d'ici 2022, 100%, mais 100% ouais. des Français pourront souscrire.
Enfin, l'internet par satellite, c'est pas le top. Hein. On est limité en data, il y a du temps de latence, etc. Enfin, c'est pas aussi fluide et qualitatif alors, que la fibre en fait, ou la 4G ou la 5G.
C'est pas aussi bien que la fibre, c'est sûr, mais ça peut être aussi bien que la 4G. En fait, on a lancé deux satellites
qui sont pas géostationnaires, qui sont plus bas, c'est ça
qui réservent des bandes de fréquences spécifiques. Mmh. Un qui permet de garantir que d'ici la fin de l'année, vous pouvez avoir le bon débit, c'est-à-dire 8 mégabits par seconde, parce qu'il faut rentrer dans le détail, 8 mégabits par seconde partout en France, d'ici la fin de 2020. Et le deuxième, qui n'est pas encore en service, qui, d'ici 2022, permettra à tout le monde d'avoir 30 mégabits par seconde. Donc, le satellite compliqué qui marche aléatoirement, c'est terminé, on va vers de la bonne connexion. Je le dis parce que j'étais en vacances dans les Cévennes cet été. Dans les Cévennes, il y a des endroits, il se trouve qu'il y a
on n'arrivait pas à vous joindre.
On n'arrivait pas à me joindre, ouais. Parce que j'étais vers Lettonie, vous voyez, donc c'est dans un endroit des Cévennes assez...
Ah oui, vous reculé. Avez testé les zones blanches, là.
Et en fait, la chambre d'hôte, le gîte qui ouais. nous recevait, avait
le
satellite Nordnet et ça marchait très bien.
Ça marchait
donc
bien.
J'ai pu aller vérifier, ouais. entre guillemets, moi-même, que ça marchait bien.
Après, ça ne permet pas, dans de bonnes qualités, dans de bonnes conditions, la voie sur IP, et tout, parce qu'il y a du temps de latence, etc. Mais en tout cas, c'est une solution, on va dire, de
ouais, c'est, même de pour la voie sur IP, honnêtement, je pense qu'on peut faire des trucs ça très passe. Bien avec du 30 mégabits. Ouais. Après, vous ne pouvez pas faire du gaming à fond, oui, voilà. de la télémédecine avec des très gros dossiers, mais bon, c'est...
Donc, 2022, 8 mégas. Non, 2020, fin d'année 2020, 8 mégas pour quasiment tout le monde.
Non, pas tout le monde.
2022, 30 mégas.
Ouais.
Et 2025, fibre optique
pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Exactement.
Ou 5G, si la fibre ne va
pas. Non,
notre
objectif, c'est la fibre. Notre objectif, c'est de tirer les câbles.
Non, mais c'est important parce que ce sont des engagements fermes pour tous ceux qui nous écoutent. Et Dieu
mais c'est tellement ferme qu'on va le mettre dans la loi.
D'accord.
Le service universel 2025. On passe la semaine prochaine à l'Assemblée un texte un peu technique, mais qui va nous permettre... d'avoir la base légale pour faire le service universel. Et c'est important parce que, pour que les gens se rendent compte, encore une fois, c'est toujours trop lent la fibre, le rythme de déploiement de la fibre aujourd'hui en France, il est inégalé partout dans le monde. La moitié de la fibre qui s'installe en Europe...
Mais on parle de loin, France. Cédric. Oh, ça fait des dizaines d'années qu'on parle du plan fibre. On est d'accord.
Vous avez peut-être l'impression qu'on parle de loin. Aujourd'hui, le pays qui a le plus de kilomètres de fibre sur son territoire, c'est la France. Mmh. Donc... c'est un peu quand on se compare, on se console. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pays qui est mieux fibré que la France. Et pourtant, on est toujours ceux qui déployons le plus. Chaque jour ouvré, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est 19 000 locaux qui sont rendus raccordables à la fibre en France. 19 000 par jour.
Ouais, c'est énorme.
Pas par mois, par jour. Donc, ça arrive, quoi. C'est lent. C'est trop lent, trop long, parce que tout le monde la veut, tout le monde en a besoin. C'est comme l'eau, l'électricité, mais ça arrive.
Et entre les opérateurs, ça se passe bien? L'opérateur qui tire la fibre, il ne va pas garder un peu la fibre un peu pour lui en attendant que les autres arrivent? Enfin, vous ne voyez pas des petites tensions comme ça entre les opérateurs?
Tout se passe magnifiquement bien partout en France et qu'il n'y a pas de problème. Oui, il y a encore des endroits où la fibre passe dans votre rue et puis on l'a commercialisé, c'est votre frère, mais vous, vous êtes un peu plus loin, donc vous ne l'avez pas encore. Donc tout ça, c'est encore trop long, c'est encore trop lent. Il y a toujours des petites tensions. Nous, on maintient une forte pression.
Et l'Arcep veille. Hein,
L'Arcep veille, ça. Évidemment, qui fait un très très bon travail. Mais grosso modo, on est plutôt satisfait.
On peut imaginer que d'ici la fin de l'année, on ait les premières offres commerciales 5G.
En plus, on aura les premières offres commerciales.
Apple lance son iPhone 12 qui visiblement serait 5G, donc ça va être un sacré boost. En revanche, il y a cette rumeur comme quoi on pourra avoir une 5G à deux vitesses. Une 5G, une vraie 5G et une fausse 5G qui pourrait être lancée par certains opérateurs français. Est-ce que vous allez franchement laisser tout le monde faire ce qu'il veut, ou est-ce que vous allez être vigilant concernant peut-être des fausses appellations de la fausse 5G?
Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est qu'effectivement, comme vous le dites, les opérateurs pourraient d'ailleurs dès aujourd'hui utiliser certaines antennes 4G pour faire de la 5G, avec, je ne rentre pas dans le détail, des niveaux de qualité qui sont assez différents.
Sur des fréquences à 700 ou 800 MHz.
700 ou même 2,8, 2,6, etc. Donc on pourrait utiliser 2,1, 2,8. Bon. Parce que la définition de la 5G est très compliquée.
Oui, bien sûr.
Que, en fait, la 5G, c'est pas.
C'est pas qu'un spectre de fréquence, en fait. C'est tout.
Exactement. C'est le récepteur, c'est bien les sûr. Algorithmes, c'est le spectre de fréquence. Enfin, c'est les exactement. Nous, la manière dont on veut aborder les choses avec l'ARCEP, et puis j'en ai parlé par exemple avec 60 millions de consommateurs, avec l'UFC que choisir, c'est que on fasse en sorte qu'il y ait la transparence sur ce à quoi on a droit où. Donc, si vous êtes à Rouen, si vous êtes à Lyon, si vous êtes à Rennes, vous devez savoir, donc il y aura des cartes, il y aura des choses très précises, si à côté de chez vous, c'est plutôt de la 5G sur les 3,5 GHz ou de la 5G sur telle autre bande
mais
de fréquence.
Mais comment je le saurais? Il faudrait que ce soit indiqué sur mon téléphone. Je vais avoir
non, parce
un
que
logo
téléphone,
5G,
vous aurez éventuellement toujours un logo 5G. Ça, juridiquement, la capacité à définir ce qu'est la vraie ou la bonne 5G est compliquée. Donc il faut que les gens puissent...
Donc je le saurai quand je souscrirai un abonnement. Je
non,
suis dans
vous,
une zone
vous,
où
vous aurez des sites internet ou des choses comme ça où on vous dira vous êtes là. Bah, en fait, la vraie 5G.
Mais il va falloir que je me renseigne. C'est pas l'opérateur qui me communiquera cette information.
Il faudra s'enseigner effectivement. Mais déjà, on veut faire la transparence pour cela. Après, si on regarde ce qui s'est passé sur la 4G, il y a eu exactement le même sujet,
notamment aux États-Unis.
Mais en France sur la 4G, c'est-à-dire au début, bon, tout n'était pas parfait partout, mais assez vite, au bout de quelques mois. Ça se règle. D'ailleurs, c'est l'intérêt des opérateurs, dans le fond. Tous les opérateurs n'ont aucun intérêt, ne serait-ce que parce qu'il peut y avoir, pour des raisons commerciales, n'ont aucun intérêt à fournir un service de mauvaise qualité. Et c'est là que la concurrence nous aide. C'est là que le fait qu'il y ait quatre opérateurs et qu'ils se font concurrence, fait que ça nous aide à ce que si l'un met de la bonne 4G et l'autre de la mauvaise 4G, bah, en fait, on voit tout de suite des mouvements de clients et donc ça force tout le monde à déployer très vite.
Est-ce qu'à votre avis, les prix vont s'envoler? Les prix des abonnements 5G vont s'envoler?
Non, je pense que s'envoler, ce n'est pas le bon terme. Je pense que si jamais il devait y avoir de nouvelles fonctionnalités, il est possible qu'il y ait une petite augmentation. Mais d'abord, personne n'est obligé de passer à la 5G. Hein. Je veux dire, le fait qu'on passe 99% des Français en 4G, des pylônes en 4G, ça date de cette année. Donc, il a fallu 7 ou 8 ans. Donc, tout le monde pourra continuer à utiliser son téléphone 4G. Ce n'est pas un sujet. Après, pour ceux qui voudront des fonctionnalités spécifiques, est-ce que ce sera un peu plus cher? Peut-être. Mais on continuera à veiller à ce que les choses soient dans un ordre de grandeur raisonnable. Par ailleurs, là encore, la concurrence fait que ça ne peut pas s'envoler.
Puis visiblement, grâce à la 5G, on pourra avoir des abonnements data illimités, ce qui était le cas en 4G,
oui,
mais
exactement.
De manière assez sporadique.
En fait,
là, ça pourrait se généraliser. En
4G, la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'abonnement data illimité.
Oui, chez Free, il y en a, par exemple.
Non, c'est toujours avec un cap.
Chez Free, je ne crois pas. Hein. C'est de la vraie 4G.
60 gigas ou c'est des choses comme ça.
Je
ne
crois pas. J'ai interviewé Xavier Niel, il m'a garanti que c'était de la vraie 4G en illimité si on souscrivait par ailleurs un abonnement au fixe. On avait droit à une carte SIM supplémentaire.
Alors c'est possible qu'effectivement il y ait le sujet de l'abonnement fixe en même temps.
Je crois que Bouygues aussi propose une box 4G illimitée. Mais, donc là, en tout cas, la 5G permettrait d'avoir de la vraie data illimitée.
Oui, probablement.
Dernière question, Stop Covid. Vous êtes l'initiateur et on a eu l'occasion de discuter il y a quelques mois de cela lors du lancement de cette application Stop Covid. Succès ou échec, sincèrement, pour vous?
Non, à ce stade, ce n'est pas un succès. J'attendrai un peu pour dire que c'est un échec. D'abord parce que l'épidémie n'est pas finie. Ensuite, parce qu'on voit que nous, on a eu un peu moins de 3 millions de téléchargements. Les Anglais viennent d'en faire 15 millions en une semaine pour le lancement de leur application. C'est assez simple. On voit que la situation là, c'est qu'il y a la deuxième vague de l'épidémie, il y a le début de fermeture de bars, de restaurants, etc.
Et ça
qui est précisément les cas dans lesquels on a besoin de Stop Covid.
Mais ça risque de se compliquer dans d'autres régions de France.
Ça pourrait se compliquer dans d'autres régions de France. Vous avez vu les annonces d'Olivier Véran sur Paris, sur Lyon, etc. Et donc, c'est précisément les cas, les restaurants, les bars. Vous êtes à côté de gens que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas votre masque. Éventuellement certains cadres de rassemblement étudiants, quand vous faites des rassemblements, des colloques. Alors, il y en a de moins en moins compte tenu des règles. Mais, donc, si on veut, à un moment, pouvoir un peu relâcher les règles, et on a besoin de suivre cette épidémie. Et donc, si on ne veut pas qu'il y ait une troisième version de la fermeture des bars, des restaurants, etc., on a besoin d'avoir toutes les outils sur la table. C'est vrai, des brigades sanitaires physiques, mais à un moment, les brigades sanitaires physiques, elles ont une limite physique, comme leur nom l'indique. Et donc là, Stop Covid peut être utile. Je pense que... alors, nous, on voit une petite augmentation des téléchargements suite à la
résurgence de l'épidémie. Ouais.
On voit qu'il y a, je crois, plus de 6000 personnes qui ont déclaré dans Stop Covid qu'ils avaient le Covid. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus de 15 minutes, moins d'un mètre dans les dernières 48 heures, vous ne croisez quasiment personne qui a Stop Covid. Il faut juste être totalement lucide.
C'est
ça
pas
veut
bon,
dire
ça.
Que ces 6000 personnes auraient pu prévenir d'autres milliers de personnes qui, parfois en étant asymptomatiques et donc en contaminant leur entourage, auraient pu prendre les dispositions, aller se faire tester, etc. Donc, voilà,
Est-ce qu'on a fait les bons choix techniques aussi ? C'est vrai qu'à un moment, il y avait ce débat plutôt aller du côté des GAFA, etc., avec leurs solutions techniques. Nous, on a pris une solution maison française. D'ailleurs, on s'est un peu isolé. Est-ce que ça a été le bon choix technique, sincèrement ?
J'en suis, mais 100% convaincu.
D'accord.
Pour une raison simple, imaginez aujourd'hui que ce soit Apple et Google qui gèrent Stop Covid. Mais tous les jours, on nous rebattrait les oreilles avec vous avez donné
les données mieux, de santé. Parce qu'on voit qu'on a des limitations techniques, non ?
Non, il n'y a pas de limitation.
Avec les iPhones, Android, etc.
Il n'y a quasiment aucune limitation technique. Je pense que d'ailleurs les Français se fichent. Enfin, je pense même que les Français préfèrent que ce soit les autorités sanitaires sous la surveillance de la CNIL qui nous a...
Bien sûr.
Et que ce soit transparent pour la CNIL, par exemple. C'est la solution Apple Google, rien de transparent. Qui gèrent leurs données sanitaires. Je pense que les Français préfèrent cette version-là. Et je pense que le fond du sujet n'est pas tant le choix de la solution technique, parce que les gens, en fait, sont assez peu au fait de la solution technique, que le moment où on l'a déployée, qu'éventuellement la communication, la pédagogie insuffisante qu'on a pu faire. Moi, quand je croise des gens, c'est pas totalement clair à quoi sert Stop Covid pour de vrai. Et donc, c'est sur ces éléments-là qu'on doit travailler si on veut le relancer. Mais je le dis vraiment très sincèrement. Je veux dire... La question, ce n'est pas de savoir si Stop Covid est un échec ou un succès pour le gouvernement. On s'en fiche. La question, c'est de dire que oui, ça peut être utile. Oui, c'est utile dans notamment métro, resto, bar, réunion à plusieurs, où vous n'avez pas votre masque. Et donc, j'invite vraiment les Français à la télécharger, notamment quand ils sont à ces quatre figures-là.
Très bien. J'imagine que vous l'avez installé, pas comme votre Premier ministre. Hein, c'était... voilà.
Non, mais le Premier ministre, il n'est pas souvent dans les situations que j'évoquais.
Non, mais c'est clair.
Et moi, je l'ai téléchargé, ça me semble
logique,
ne serait-ce que pour le TC, etc.
Vous êtes un peu l'ambassadeur, c'est tout à fait normal.
Exactement.
Merci beaucoup, Cédric O, d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci, François.
On en sait un petit peu plus sur ces enchères, sur la 5G, sur la fibre optique, et donc Stop Covid. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous rejoindre sur les réseaux avec le hashtag DQGMM sur Twitter, sur la page Facebook de quoi je me mêle, et on sera là, bien sûr, le week-end prochain. À bientôt.
De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.